Nous sommes en train de regarder une petite étude sur les fausses religions. Le titre de la série, c'était « Le chrétien et les religions ». Puis à date, on a vu deux messages qui nous parlaient de l'idolâtrie. Puis la semaine passée, ça nous disait que Dieu nous disait de sortir des religions puis de garder sa parole. C'était ça qui était le but. Aujourd'hui, on continue un peu dans la même lignée de pensée, dans le même message, sauf que on va voir un aspect que la Bible nous parle de plusieurs passages sur les faux prophètes. Il y a des faux prophètes dans ce monde. On a besoin, en tant que chrétien, avec le nombre de versets qu'il y a là, c'est sûr que Dieu veut nous parler là-dessus. Puis il faut s'arrêter, pas juste pour le lire, il faut comprendre ce qu'on est en train de lire pour faire attention. Parce que la Bible nous met en garde de plein de choses qu'il faut faire attention. Il n'y a pas juste l'Esprit-Saint qui se promène dans le monde. Oui, l'Esprit-Saint est là depuis le début de la création. Il se mouvait au-dessus des eaux. Puis l'Esprit-Saint agit à travers l'Église, tout ça. Mais il n'y a pas juste l'Esprit-Saint. Il y a plein d'autres esprits qui agissent aussi pour tromper les gens. Puis vous allez voir dans les versets qu'on va voir, ces esprits-là, ces autres esprits-là, sont rentrés dans les Églises du Seigneur. Vous allez le voir, puis on va le voir aussi la semaine prochaine, puis dans l'autre, qu'est-ce qui peut se produire comme conséquence. Aujourd'hui, le titre, c'est « Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes ». C'est Jésus qui a dit ça à ses 12 apôtres. Les faux prophètes éloignent les gens de la vérité, puis ils sont les auteurs de l'égarement mondial. Si le monde sont égarés aujourd'hui, c'est à cause qu'il y a plein de faux prophètes qui ont annoncé des choses dans le nom de leur religion ou de leur Dieu. C'est pour ça qu'il y a un égarement mondial. Les faux prophètes, ils répandent, puis multiplient leurs paroles, puis continuent à pareil comme les chrétiens, nous, on est une source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle par le Saint-Esprit. La parole de Dieu sort de notre bouche, puis ça fait un effet positif. Mais il y en a d'autres, c'est le contraire. C'est par d'autres esprits qui enseignent des faussetés, puis ils mêlent tout le monde. Puis s'il y a tant de monde qui s'en va dans les temps de feu, c'est en grande partie, c'est vrai que les gens sont libres, mais ils sont quand même aveuglés par tous ces faux esprits-là qui se font passer pour Dieu, puis qui mêlent tout le monde. Puis le problème, il est là.
Puis ils sont responsables aussi de ce choix-là qu'ils font.
Oui, les gens sont responsables de leur choix de suivre un faux prophète, mais quand ils sont tellement mêlés qu'ils sont liés par le Dieu de ce siècle, il y a l'intelligence obscurcie, puis ils ne savent plus quoi faire comme décision parce qu'ils ont été capturés par un esprit qui est autre que le Saint-Esprit. Exactement, c'est à nous de les informer, puis de les enseigner, puis de les corriger. Comme j'ai dit l'apôtre Paul dans le verset quand j'ai présidé les chants, il dit « Chargez d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité ». Fait qu'il fallait qu'ils amènent le monde à la foi en Jésus pour leur salut et prêcher aussi la vérité pour que les gens marchent dans la vérité. C'est deux étapes, puis il faut apprendre la vérité autant qu'on marche par la foi. Pour la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et une seule foi authentique. C'est pas toutes les religions, on l'a vu des autres semaines antérieures. Dans Éphésiens 4, les versets 4 à 6, ça nous dit, il y a un seul corps, qui est l'Église, un seul esprit, ou si on est appelé à une seule espérance par notre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Il n'a pas deux créateurs. Il n'a juste un. Puis des plans du salut, il y en a juste un. Puis il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Si on le sait ou si on l'a vu souvent, puis on va le répéter souvent, parce qu'on demeure dans cette pensée-là quand on se la rappelle. C'est comme dans Actes 4, 11 et 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Les Juifs se sont fait dire ça par les apôtres. Jésus est la pierre que vous avez rejetée. Puis cette pierre-là, c'est devenu la principale de l'angle. L'angle, c'est dans un sens, quand que tu bâtis une maison, puis que le terrain est un petit peu en angle, ils mettaient une grosse roche pour mettre tout le fond au niveau, puis là, ils bâtissaient la maison d'aplomb.
C'est la
fondation, c'est la pierre de l'angle, c'est où ce que toute la structure de la maison est appuyée. Puis cette pierre-là, c'est Jésus. Ça dit, dans ce verset-là, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, puis elle est devenue la principale de l'angle. » Puis là, il dit, « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on pouvait être sauvé. Il n'y a que le nom de
Jésus. »
C'est alias, c'est un alias Jésus. Son vrai nom, c'est Yeshua alias Jésus. Parce que c'est un...
Le seul Messie.
Le seul Messie, le seul oint, le seul Sauveur, le seul Seigneur. Puis on revient au Père, on va au Père qu'en passant par lui. Fait qu'avec ces deux versets-là, mais il y en a plein d'autres, on a déjà, notre vision est centrée sur la vérité, puis on s'en va à la bonne endroit, puis... Par cette confession-là, ça veut dire que nous croyons à cette confession-là, c'est ce qu'on a accepté dans notre vie, on rejette tout le reste des autres religions. Parce que si on confesse qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, puis qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Yeshua qui nous sauve, on ne croira pas en ce que les autres religions enseignent, que... Il y a d'autres manières d'être sauvé. Sauvé par tes œuvres, parce que tu vas avoir plus de bonnes œuvres que de mauvaises.
Que Joseph Smith a vu un ange,
puis il a établi un autre plan pour être sauvé. Puis d'autres vont dire c'est par Marie, d'autres vont dire c'est par des morts. Tu peux prier des morts, ou ton ange gardien, ou peu importe.
Ta grand-mère.
Tout ça, là, c'est des mensonges. Tout ça, là, le reste, là, des autres religions et toutes leurs théories sur, même les dieux, on parlait des dieux grecs tantôt, que c'est toutes des légendes, puis des fictions, puis des choses montées par l'intelligence humaine. Ça n'existe pas. Il y a un seul Dieu, le Créateur de tous, qui est en tous, parmi tous, puis qui maintient toutes choses en existence. Il n'y en a pas deux. Puis, il est important de connaître le vrai. Puis là, par ces deux versets, Dieu exclut toutes les religions comme étant un moyen d'être sauvé. Il n'y a pas d'autre religion possible pour atteindre Dieu le Père. Fait que si on part avec cette idée-là, on est dans la vérité. On commence à mettre notre foi dans la vérité, puis ça va nous faire approfondir aussi le restant de quand tu crois en Jésus, comme qu'on a dit tantôt, c'est pas juste de croire en son nom, c'est de croire aussi en tout ce qu'il a annoncé, tout ce qu'il a prêché, tout ce qu'il a enseigné à ses disciples. Parce que le mot disciple, êtes-vous des disciples de Jésus?
Oui.
Mais le mot disciple veut dire élève. Vous êtes des élèves de Jésus. On a un professeur, on a un maître. C'est qui notre professeur?
C'est Jésus.
Jésus. Puis il veut nous enseigner, chacun de nous, pour qu'on devienne des élèves. Puis il dit, tout élève accompli sera comme son maître. Fait que le but à viser, c'est de devenir comme étant notre maître. Amen. Gloire à Dieu. Oui, c'est le seul qui est parfait. Pourquoi il y a beaucoup de religions puis qu'elles sont très populaires? Y a-t-il une raison pour cela? Si on sait qu'il y a un seul chemin, Dieu, puis Jésus, c'est le chemin, comment se fait qu'il y a tellement de religions, puis qu'elles sont populaires? Il y en a que c'est des religions qui ont des millions et des centaines de millions d'adeptes, de disciples. Comment ça se fait? Mais il y a un verset qui nous le dit dans 1 Jean, le chapitre 4, les versets 5 et 6. Eux, en parlant des religions, puis des prophètes qui les enseignent, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, puis celui qui connaît Dieu nous écoute. Voyez-vous pourquoi que tant de religions? C'est simple.
Ça veut dire beaucoup de choses.
Oui. Il y a un seul Dieu.
Il y en a qui nous écoutent pas aussi.
Exactement, puis on va en parler dans le discernement, dans la semaine prochaine ou dans l'autre, on va en parler. C'est un point de discernement, de connaissance de la parole pour arriver à discerner lui c'est un vrai ou elle c'est une vraie. là, on va le voir par « il nous écoute-tu » ou « il nous écoute pas ». Mais ceux qui sont dans le monde sont écoutés parce qu'ils sont sortis du monde, font partie du monde, ils ont l'esprit du monde, fait que le monde les écoute. C'est pour ça qu'il y a des temps de religion. Tandis que Dieu a envoyé un message à travers Jésus, Yeshua, puis on l'a reçu, ce message-là, parce qu'on croit en ce message-là, puis maintenant, on n'est plus de ce monde. Fait qu'un enfant de Dieu ne passe pas son temps à se nourrir des choses, des religions, comme s'il y aurait de quoi aller chercher là. Il sait que ça vient du monde, puis lui, sa source, il veut ce qui vient de Dieu. Puis là, il va écouter ce que Dieu a à dire. Puis où est-ce qu'on trouve tout ce que Dieu nous a dit? Dans sa parole. Il faut s'attacher. Sa parole, c'est un épée, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est notre bouclier, c'est tout. On a tout dans la parole de Dieu. Toutes les révélations qu'on a besoin de savoir, tout est écrit. Tout ce qui est nécessaire. Puis l'assemblée est là pour ramener la parole qui fait que les disciples se nourrissent de la vérité puis apprennent à grandir dans la foi et dans la connaissance. Jésus ne fraternisait pas avec le diable ni avec les religions. Ça, il faut bien comprendre. Notre maître, il imposait ses limites. Puis quand il y a de quoi qui n'était pas correct, il ne gênait pas pour le dire. Un exemple, parce que Jésus était juif, il est venu au monde dans la culture juive, puis la promesse du Messie s'était donnée aux Juifs. Il est venu au monde, c'est un Juif. Puis j'ai rien contre les Juifs, j'aime les Juifs, autant que j'aime toutes les autres races. Dieu veut pas qu'on soit raciste. Puis Jésus, en venant au monde juif, il est élevé dans les traditions juives. Ça veut pas dire qu'il a obéi à toutes les traditions juives, parce que aussitôt qu'il a commencé à pouvoir parler et expliquer les choses, il a tout de suite commencé à intervenir pour replacer les choses à leur place. Il était à 11 ans dans le temple avec les docteurs, puis il était tout étonné de voir tout ce qui pouvait sortir de sa bouche, parce qu'il est inspiré par le Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il est né de l'Esprit, Jésus. Fait qu'il confondait le mensonge dans les religions. Fait qu'en étant venu annoncer les choses de son père, il s'est pas associé avec le mensonge qu'il y avait dans les religions. Parce qu'il aurait eu à suivre une religion dans son époque, il aurait suivi la religion des pharisiens. Parce que les pharisiens croyaient en Dieu, croyaient aux anges, croyaient à la descendance d'Abraham, qui était le Messie. Puis ils suivaient l'Ancien Testament, mais ils ont modifié plein d'affaires dans leur religion. Puis Jésus s'est pas gêné de les remettre à leur place, puis en étalant tout ce qui devait être corrigé dans leur affaire. Premièrement, il fallait qu'ils croient au Messie, qu'on était tous des pécheurs, puis ça, ils n'étaient pas prêts à l'admettre. Les gens, ils n'étaient pas prêts à admettre qu'ils étaient pécheurs, puis ils n'étaient pas prêts à admettre qu'il fallait qu'ils naissent de nouveau. Ils comprenaient même pas, puis ils disaient, t'es un docteur de la loi, puis tu sais pas ces choses. Ouais. Là, Jésus, quand pour montrer qu'il ne s'associait pas avec ce qui était mensonger, dans Marc 12, 38, il expliquait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue puis à être salués sur les places publiques. » Puis là, il nomme un paquet d'affaires qu'ils font qui ne sont pas de Dieu. Jésus ne s'associait pas avec... Pourtant, c'était la religion de son peuple qui était la plus proche de l'enseignement de Moïse. Puis, il gênait pas de dénoncer ce qui est accroche. C'est ça que je veux en venir. Un disciple qui veut se marcher dans les pas de son maître ne peut pas s'associer avec ce qui est menteur, avec ce qui est du mensonge, avec ce qui est de l'orgueil humain, avec ce qui est aussi le résultat de la méchanceté humaine, parce qu'il dit... il nomme des paquets de points dans des versets que les Juifs ils marchaient croche, puis il dit ils dévoraient la maison des veuves, puis ils font pour l'apparence de longues prières, puis là il énumère un paquet de choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, puis il refusait ces choses-là lui-même pour pas les vivre, puis il leur disait pour mettre les choses au clair qu'ils participaient pas à leurs mensonges, puis fourberies, tromperies. Ils ne s'associaient pas aux mensonges, parce qu'il leur a dit, même plus carré, Vous avez pour père le diable, puis vous accomplissez ses désirs. Fait que ces gens-là, pensant qu'ils étaient de bonnes personnes, puis étaient bien sincères, Jésus leur a dit que ce que vous êtes en train de vivre, vous écoutez, vous êtes en train d'écouter le diable. Fait que tout ça... Oui, qui était une représentation des démons. Les serpents représentaient les démons. Comme qui dit, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Mais les serpents, ça fait partie de la représentation. Mais l'angle de vipère, c'est encore une expression qui a rapport des identifier avec ce qui appartient au diable. Puis quand que ça appartient au diable, Jésus, il embarqua pas là-dedans, puis il tossait ça, puis il dénonçait. Le Seigneur, pour nous, qui veut le suivre, qui veut marcher sur ses traces, on veut devenir à l'image de Jésus, nous demande de ne pas participer aux œuvres des faux prophètes. Mm-hmm. Êtes-vous étonné?
Ben non.
Pas du tout. Si lui, il l'a fait, puis il s'opposait à ce qui était mensonger, puis il déclarait les choses comme que c'était en réalité... Il nous demande à nous de faire la même chose. Il dit, tout disciple accompli va être comme son maître. Fait qu'il y a un verset qui nous dit, parle de cela, dans 2 Jean 1:10. Puis ça, à la base, un disciple de Jésus doit marcher dans l'amour, comme Jésus a marché dans l'amour. Mais quand Jésus reprenait les gens qui étaient menteurs ou hypocrites ou pas corrects, autrement dit, c'est pas parce qu'il manquait d'amour pour eux. Au contraire, il y avait assez d'amour pour leur dire que c'était pas correct, qu'est-ce qu'il est en train de faire, dans le but qu'ils se repentent. Jésus ne flattait pas le péché pour l'encourager, il a dit continuez, vous allez peut-être comprendre un jour. Non, pour qu'ils comprennent, il fallait qu'ils le disent. Pour qu'ils comprennent, il fallait qu'ils le disent que c'était pas correct. Puis là, les gens, s'ils sont à l'écoute de l'Esprit-Saint, ils vont se poser des questions, vont demander à Dieu, puis Dieu va leur montrer c'est pas correct que c'était en train de vivre là, puis il va se repentir, puis il va abandonner son mauvais chemin. Mais Jésus, c'est par amour qu'il le faisait, puis il nous demande à nous aussi de marcher dans l'amour, à s'aimer les uns les autres, puis à aimer même notre ennemi. Mais ça veut pas dire qu'il faut laisser tout passer. C'est ça, on peut pas être d'accord avec eux, puis de tout laisser passer, puis montrer qu'on est tous frères quand même. Voyez-vous? Dans le passage, dans 2 Jean, chapitre 1, les versets 10 et 11, puis ce qui est encore plus étonnant de ce verset-là, c'est écrit dans l'épître de Jean, puis Jean, il est surnommé l'apôtre de l'amour. Puis il y a bien quelqu'un qui aimait, puis qui était collé sur Jésus, puis que c'est un jeune... Il aimait. Bon. Puis c'est pas parce qu'il aimait pas qu'il a dit ce qu'on va lire là. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. Jean, l'apôtre de l'amour. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Laquelle doctrine? La doctrine de l'évangile du Seigneur. S'il vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Il y a deux affaires qu'il faut pas faire. Puis il dit pourquoi qu'il faut pas le faire. Même si tu aimes ton ennemi, mais à cause qu'il vient, il est là dans le but de venir t'évangéliser dans sa fausse doctrine, ça nous dit, laissez-les pas rentrer dans votre maison, dites-lui pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Puis ce que je veux qu'on comprenne la profondeur du mot « participer », comme dans ce verset-là, ça nous dit, si tu le rencontres sur la rue, puis il s'en vient te parler de sa fausse religion, puis tu lui dis, « Ah oui, salut, puis je t'invite, viens prendre un café », tu es en train de participer à ses mauvaises œuvres. Tu viens de l'approuver, tu viens d'y dire en lui montrant un encouragement à continuer à faire ce que tu es en train de faire. Je t'approuve, j'aime ce que tu es en train de faire, tu es correct, tout est beau. Puis c'est un faux prophète. Tu parles d'un faux prophète qui amène pas la doctrine du Seigneur. Puis là, il y en a qui vont dire, « Ouais, ben moi, quand je vais m'asseoir dans l'église d'une autre religion, il dit, je participe pas. »
Je fais juste regarder.
Je participe pas. Pourtant, Jésus, l'apôtre Jean, il dit, Tu fais juste y dire salut, puis tu viens de participer. Fait qu'imagine-toi quand tu vas t'asseoir là, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de participer. Tant tu l'encourages, t'es en train de lui montrer que t'approuves ce qui est dit là, puis t'es en train de démontrer que tu crois à cela. Puis si un autre te voit là, on en a parlé la semaine passée, un faible dans la foi qui te voit là, il va dire, ah, ben lui est assis là, je vais y aller moi aussi. Puis il va dire amen à la prière de Marie, puis il va tomber, il va perdre son salut, il va se mettre à croire en d'autres choses pour être sauvé. Jésus ne participait pas aux œuvres des pharisiens, puis leurs mensonges, puis leur disait, puis nous demandait, nous, de ne pas participer. Encore moins de participer à leur réunion. Parce que même là, tu dis, je participe pas, mais le fait que tu es assis là, t'es bien plus que dire que tu l'encourages juste par une poignée de main. Là, t'es assis là, t'es en train d'encourager bien plus l'encourager. Tu participes. Les faux prophètes, il faut comprendre, c'est une chose que c'est dans la Bible, puis il faut le comprendre là, comme si c'est quelque chose de autant que c'est Jésus qui nous le demande. Les faux prophètes, ils sont ennemis de Dieu.
Amen.
Même si la personne, Dieu aime tout le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, mais Dieu a des ennemis. Il a des ennemis de la croix, il y a des ennemis de Jésus, il y a des ennemis de la vérité, il y a des ennemis de toute justice, de ce qui est juste. Puis ça, on voit ça dans les Actes, le chapitre 13, le verset 10. Puis en devenant ces gens-là, en devenant ennemis de Dieu, ils sont automatiquement tombés nos ennemis. Vous allez voir pourquoi. L'apôtre est en train d'évangéliser, puis il rencontre quelqu'un. Puis c'est Élymas le magicien, c'est un gars qui est instruit dans des choses pour séduire le monde, puis t'entraîner le monde.
Magicien, c'est Élymas, là?
Mais s'il dit dans l'autre verset, il dit c'est Élymas que veut dire son nom. Élymas le magicien, que lui, il était avec le proconsul, puis le proconsul, il était attentif à ce que l'enseignement, ce qui était dit par Paul, puis lui, il s'opposait, puis il commençait à s'ostiner, puis à dire que c'est pas ça, puis il présentait ses croyances, puis sa foi,
il faisait
de la magie, mais il présentait sa foi, puis il s'ostinait avec Paul pour essayer de démolir son témoignage. Il a-t-il été reçu comme étant un bon gars, puis on fait toute partie de la même religion?
Puis par les apôtres, mais il a essayé de...
Ouais. Regardez bien comment est-ce qu'il a été appelé par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a dit une parole, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? »
Wow.
Il n'a pas été traité, « Oh, on est tous frères, même si on n'a pas la même pensée. » Non, non. Tu t'opposes à la vérité. T'es un fils du diable. T'es un ennemi de toute justice.
Il le met à sa place.
Il l'a dénoncé publiquement. Puis il n'a pas communié avec lui. Puis aller fraterniser pour aller à son église. Puis toi, il viendra bien après. Non, ça marche pas, cette idée-là. Quand une personne enseigne autre chose que l'évangile qu'on a reçu pour le salut, qu'il soit anathème, ça veut dire maudit, excommunié, voyez-vous? Ce que je veux en venir, c'est qu'il faut réaliser que même s'il y a beaucoup de personnes autour de nous qui parlent d'un Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est tous frères et sœurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je m'assis dans leur église, puis on fraternise, puis on fait comme si rien n'était. Pas du tout. Si les gens apportent un autre évangile, ils sont en train de s'opposer à la vérité. Sont en train de combattre contre le Saint-Esprit. Leur fausseté est en train de combattre la vérité. Sont en train d'empêcher que l'autre ait la foi à côté de lui. Là. L'autre voulait écouter, puis il voulait entendre, puis il était attentif. Puis il était en train de grandir dans la foi. Il recevait la semence de la foi, puis il est intervenu pour tout le mêler. Paul, il s'est reviré, puis il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Voici, la main du Seigneur sera sur toi, puis tu vas tomber aveugle pour un temps. En disant cela, paf, l'obscurité des ténèbres a tombé sur lui, puis là, il voyait plus clair. Puis là, ça nous dit que le gars, le proconsul, il s'est mis à croire parce qu'il a vu la puissance de Dieu. Il a vu la vérité être révélée. Voyez-vous? Fait que quand on va évangéliser ou qu'on vit dans notre vie de tous les jours, on n'est pas là pour se faire des amis avec les ennemis de la croix, les ennemis de l'évangile. Ça veut pas dire qu'on les aime pas. Si Paul lui a parlé comme ça à ce gars-là, c'est pas parce qu'il l'aimait pas. Pour que la personne réalise, quand elle tombe aveugle suite à la parole de Paul, tu penses-tu que ce gars-là n'a pas réfléchi? Ça nous dit pas qu'il s'est converti, mais ça nous dit pas qu'il ne s'est pas converti par la suite. Fait que l'idée, c'est, les choses ont été établies, t'es un menteur, t'es un fils du diable, t'es un ennemi de la justice, puis clair. Puis que la main du Seigneur va être sur toi, tu vas tomber aveugle, puis c'est ce qui est arrivé. Puis là, la puissance de Dieu, le nom de Dieu est élevé, puis la vérité est élevée, puis l'autre gars, il a cru. Puis là, maintenant, Jésus, dans la suite de l'histoire, là, on voit qu'il y a des faux prophètes, puis c'est à trancher, aussi carrément que ça. Pas parce qu'on les aime pas, on aime tout le monde, on veut que tout le monde soit converti, mais en gardant le mensonge, en la tolérant le mensonge, tu y aides pas. Lui, il est aveuglé par un esprit, puis il sait pas, puis il a besoin de comprendre le vrai chemin, puis s'il dit pas, qui va y dire? C'est notre devoir. Mais maintenant, ce que Jésus, quand là on parle de le titre du message, Jésus nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Jésus, maintenant, il nous met en garde que dans le christianisme, quand on parle du christianisme, c'est le monde évangélique, les protestants en général, qu'il y aura des faux prophètes, même dans le monde évangélique, puis dans le protestantisme. Puis qu'il nous demande, Jésus nous demande de les discerner. Les faux prophètes, en fin de compte, parce que là, les autres religions, ça se facile à distinguer, mais quand c'est dans l'Église du Seigneur, les faux prophètes que dans l'Église du Seigneur sont un mélange de la Bible, du monde, de la chair, puis des démons. Là, vous allez me dire, wow, c'est tout un mix. C'est un fait. C'est que les humains, influencés par des mauvais esprits, prennent les pensées populaires du monde, puis ils prennent aussi des versets de la Bible. Les faux prophètes prennent des versets de la Bible. Même le diable prend des versets de la Bible.
Même Satan enseigne par la Bible.
Oui. Oui, puis il a tenté Jésus par la Bible. Mais tout ça pour nous dire que les chrétiens sont appelés par la parole de Dieu à avoir du discernement, que en voulant dire que tout ce que vous entendez qui parle de Dieu, c'est pas nécessairement Dieu qui a inspiré ces idées-là. Il faut aller sonder, il faut apprendre à connaître la Bible. On est là pour défendre la vérité, mais il faut la connaître. Quand tu vois du mensonge qui arrive, il faut que tu sois capable de refuter. Dans Matthieu 7,15, Jésus nous parle à nous, aux chrétiens. Gardez-vous des faux prophètes. Se garder, ça veut dire discerner puis se préserver. C'est pas juste de le savoir qu'il est faux prophète. Faut pas j'embarque dans ces faussetés. Puis là, ces faux prophètes-là, pour vous montrer, j'ai dans la même phrase, là, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Quand il dit ça, Jésus, que c'est un vêtement de brebis, ça veut dire quoi?
Imitateur.
Imitateur de qui? De quoi?
De Dieu.
De Jésus.
De Jésus, du christianisme. C'est qui les brebis du Seigneur? C'est les chrétiens. Fait qu'ils viennent en vêtement de brebis, ça veut dire qu'ils prennent l'apparence de chrétiens. Les faux prophètes, surtout, c'est ceux qui se disent prophètes, Puis là, je voulais vous dire c'est quoi d'être un faux prophète. C'est quelqu'un qui, se faisant passer pour un prophète divinement inspiré, un prophète, c'est quelqu'un qui parle dans le nom de Dieu, comme en recevant des révélations, puis il dit, ainsi parle le Seigneur me dit, le Seigneur me dit, le Seigneur il dit ça, bon. Fait qu'il se passe pour des gens divinement inspirés, mais il annonce des choses fausses. Des choses fausses. Dieu ne leur a pas dit rien, mais eux autres, ils entendent quelque chose, mais c'est pas le Saint-Esprit qui leur a dit, puis leurs déclarations sont fausses. Beaucoup de prophéties ne s'accomplissent pas, puis les gens ont mis leur espoir dans des fausses prophéties, puis le monde attend après ça, puis il n'y a rien qui s'accomplit, puis après ça, ils sont contre Dieu, là. Ils sont de la peine contre Dieu, parce que la prophétie s'est pas accomplie. Mais Dieu l'a jamais dit, cette prophétie-là, parce que cette personne-là a parlé par audace, en son propre nom, elle a décidé de dire...
Elle a imaginé que Dieu lui a dit ça.
Puis là, elle a dit ça à tout le monde. Puis là, ils se font passer pour des prophéties divines. Mais en réalité, c'est pas Dieu qui les a parlé. Non, des fois, c'est eux autres même leur propre imagination, puis d'autres fois, c'est d'autres esprits. Ça veut pas dire qu'ils ont pas entendu quelque chose. Ils ont entendu des choses. Parce qu'il y a d'autres esprits qui parlent, il n'y a pas juste le Saint-Esprit. Puis là, les gens espèrent dans leurs paroles, puis ils s'accomplissent pas. Puis ça s'est vu dans l'Ancien Testament, il y a plein d'exemples, puis on va en voir quelques-unes dans les leçons futures, pour nous faire comprendre comment ça marche, puis discerner. Jésus nous a parlé concernant les faux prophètes qui essaieront de nous séduire, de nous tromper, de nous détourner de la vérité par leurs mensonges. Parce qu'arrive un faux prophète, fait pas juste des prophéties, il y a aussi des enseignements, des doctrines, des croyances. Il base sa croyance, lui, sa religion, sur un paquet de principes. Puis un faux prophète, il a toujours des croyances qui sont contraires à la Bible. Si tu fouilles un peu son enseignement, tu vas trouver des points que c'est pas ça que la Bible dit. Fait que on va en parler dans la suite, un peu plus tard, dans les autres études, pour comment les distinguer avec ce qu'ils confessent, ce qu'ils enseignent. Fait que là, il nous dit... Jésus qui parle, c'est pas n'importe qui, puis il dit c'est pas ça à n'importe qui, il dit ça à nous. Chacun de nous, on doit être au courant de ce que je dis là. Il va y avoir plusieurs faux prophètes qui s'élèveront, puis ils séduiront beaucoup de gens. Pourquoi qu'il nous dit ça, Jésus? C'est pour nous mettre en garde.
Dans Matthieu 24, ça.
Hein? Oui, 24, 11. Tantôt, c'est à Matthieu 7, 15, qui dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, c'est des loups ravisseurs. » Fait que ça a l'apparence de chrétiens. Puis dans l'autre, il dit « Ils vont séduire beaucoup de gens. » Ça veut dire que ces religions-là, ils vont avoir beaucoup d'adeptes. Beaucoup de gens qui suivent ces grands personnages-là qui ont des grosses prophéties, puis ils sont bien populaires. C'est pas à cause que quelqu'un est populaire que c'est la vérité. Oui, on l'a vu tantôt, l'esprit du monde attire les gens qui sont dans le monde, tu peux avoir des grosses religions bien populaires, puis ça n'a pas rapport qu'en voulant dire « ça doit être vrai ». Non, il faut discerner ce qui est enseigné, c'est-tu biblique? Ça, c'est la bonne question. Dans Matthieu 24, 24, il dit « il va s'élever des faux Christ, puis des faux prophètes ». Fait que Jésus, juste dans Matthieu, il y a trois versets qui en parlent, hein. Des faux Christ, des faux prophètes, ils feront de grands prodiges, des gros miracles. Et il dit des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est qui les élus?
C'est nous.
Fait que ça pourrait être possible qu'il nous séduit. Puis on le voit aussi que Paul l'a enseigné, que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs des doctrines de démons. Jésus l'a dit, pour séduire, c'était possible, même un élu, puis Paul l'a prophétisé qu'il va en avoir, qu'il va abandonner. Puis même dans Matthieu 24, ça nous dit, plusieurs succomberont. Ils s'haïront les uns les autres, ils vont se trahir, puis... ça va créer un paquet de troubles.
Puis il va avoir la marque de la bête aussi.
Oui. Mais on est dans ces périodes-là. La marque de la bête n'est pas arrivée, mais on est déjà dans le temps de la séduction des fausses religions. Il y a juste, les fausses religions n'ont jamais été autant connues et autant populaires comme là. Parce qu'avec l'Internet, il n'y a pas juste la parole de Dieu qui est répandue. Les fausses religions sont étalées, les fausses connaissances, les mensonges. Parce que ça semble chrétien, mais c'est des menteries. Dieu n'a jamais enseigné ces affaires-là dans la parole. Puis c'est ça qu'il faut faire attention. C'est pas tout ce qu'on entend de la voix d'un prédicateur qu'on doit dire, c'est l'Esprit de Dieu. On va le voir un petit peu plus loin. Dans ce verset-là, dans Matthieu 24, que j'ai compris d'une révélation, il s'élèvera de faux Christ. Puis le mot Christ, ça veut dire des oints. Des faux oints. Comment est-ce qu'on l'entend? Oh, lui, il a l'onction.
Déguisé en ange de
lui. Ça a l'air l'onction, ça a l'air oint. Mais c'est pas obligé qu'il se pense pour Jésus. C'est juste dire qu'il y a un esprit puissant sur sa vie. Je suis un ouin. Mais c'est un ouin, mais ça peut être un faux ouin. Que c'est pas l'onction du Saint-Esprit. Ça peut être un ouin loin. Ça peut être un ouin loin du Seigneur. Un ouin loin du Seigneur. L'Antéchrist, c'est le faux prophète. Je l'ai pas mis le verset parce que là, après, j'ai arrêté trop long. Mais c'est écrit qu'il va faire des grands miracles pour séduire les nations, puis il rassemble. C'est des esprits de démons qui vont être en lui, puis ils vont faire plein de miracles pour rassembler. Ce qu'on entend aujourd'hui, l'écuménique, le rassemblement de toutes les religions, c'est le mouvement de l'esprit de tromperie, de mensonge. Une puissance d'égarement que Dieu a envoyée pour que le monde croit au mensonge. Puis les ceux qui croiront pas, c'est ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui sont ancrés dans la parole ne veulent rien savoir des autres religions. On s'unira pas avec cela. Parce qu'on aime Dieu, on aime Jésus, on aime sa parole. Puis tout ce qui est faux, dans le nom de Jésus, on rejette tout ça.
Amen.
Gloire à Dieu. Les faux ouins. Les faux Christ, pardon.
Faut qu'on soit prêt à mourir dans ce temps-là pour Jésus.
Prêt à mourir pour Jésus, déjà aujourd'hui. Oui, parce qu'il y en a qui le vivent présentement dans des pays.
J'en arrange les têtes coupées, les balles dans la tête.
Oui.
Puis ça se passe.
Ça a déjà commencé,
oui. Oui. Puis quand ça va être le temps de prendre position, puis qu'ils vont nous demander si ça arrive au Québec, il y en a que ça va être la prison ou d'autres choses, mais si ça arrive au Québec, mais il faut être prête même lui dire pourquoi qu'on croit d'autres choses.
Ouais.
Nous autres, on croit au Messie et en sa parole. On croit en la vérité du salut, en Jésus-Christ, rien d'autre.
Non, on croit pas en d'autres choses, on croit en
rien d'autre.
En la chose.
Ouais, la vérité. Fait que faux Christ, faux prophète, ils vont faire des miracles au point de séduire. Puis nous, on est avertis. Puis l'enseignement, je n'ai peut-être parlé un peu dans d'autres prêches, on en parle encore, faut que ça soit ancré dans notre esprit. On est en train d'étaler ces choses. Puis que Paul a dit à Timothée, étale ces choses, puis tu vas être un bon ministre de Jésus-Christ. Faut étaler ces choses, faut en parler. Faut pas avoir peur de parler, puis de dire ces choses-là. Il y a du faux, puis il faut apprendre à rejeter ce qui est faux. La Bible demande aussi de ne pas se fier à toute manifestation d'esprit et leur enseignement, mais de les sonder. Il y en a des esprits. Soyez pas étonnés que les gens sentent des puissances dans leur religion. Je peux vous montrer une vidéo que dans un groupement musulman, les gens ils sont pris d'un esprit et ils shakent la même affaire que les gens sur le Vineyard shakaient. Puis c'est des musulmans. Puis un autre, une vidéo que j'ai aussi, que le nom peut-être, je ne m'en rappelle pas à 100%, Kilumbali, une religion, ça vient de la religion de l'Inde, l'hindouisme, le Callum Billy, une affaire de même, là, c'est des trans, puis les gens font des jerks. La même affaire que le Van Yard faisait il y a une vingtaine d'années, même affaire que les musulmans font. Callum Billy, j'ai un petit vidéo, si ça en a, ça les intéresse, je peux vous montrer. Cet esprit-là n'est pas l'esprit du Seigneur, mais c'est rentré dans l'Église du Seigneur. Puis ça se transmet par l'imposition des mains des dirigeants qui sont là, puis les gens sont ouverts à recevoir ces expériences-là, puis c'est un autre esprit qui est en train d'agir. Puis là, dans la parole de Dieu, ça nous dit, dans 1 Jean 4:1, que on doit vérifier ces choses, les analyser, les mettre à l'épreuve. Faut les sonder là, pour savoir si vraiment c'est de Dieu ou pas. Ça nous dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde. Voyez-vous, dans l'Église du Seigneur, il y a des faux prophètes qui sont là puis introduisent d'autres sortes d'esprits. Je l'en ai parlé la semaine passée, je ne l'ai pas remis cette semaine, mais que les Corinthiens, ils avaient reçu un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit. Il faut comprendre que si on voit une manifestation surnaturelle, que là on voit bien que c'est pas la personne qui fait ça, que c'est un autre esprit, faut pas se dire automatiquement « c'est Dieu ». Non, sonde, vérifie, analyse, regarde en profondeur. C'est-tu dans la Bible? C'est-tu écrit? Première chose. C'est-tu contraire à des enseignements ou c'est pas encouragé telle et telle manifestation? Dieu nous dit le contraire. Bon, mais il y a des manières de sonder et savoir si c'est de Dieu. Tu peux y faire prendre autorité dans le nom de Jésus pour lui demander quel est le nom de cet esprit-là qui est en train d'agir. Puis, de toute façon, par le don du discernement des esprits, Dieu, il nous met en garde. Si on est à l'écoute, on va ressentir, il y a quelque chose qui marche pas, là. Si on a ce don-là, on va le ressentir. Mais si on l'a pas, faut y aller avec l'analyse. C'est-tu enseigné dans la parole de Dieu? On va le voir plus la semaine prochaine. Les faux prophètes peuvent parler de Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, mais il y a un autre Jésus. C'était plus leur croyance en leur Jésus. Tu t'aperçois rapidement qu'on parle pas du même Jésus. Puis l'enseignement de ce Jésus-là, c'est pas la même que le Jésus de la Bible. Donc, c'est un autre Jésus, un autre évangile. Mais les faux prophètes peuvent parler de Jésus et faire des miracles. Ils vont imposer les mains, puis il va se passer des affaires. Mais ça veut pas dire parce qu'ils font des miracles puis qu'ils parlent de Jésus que c'est des vrais disciples de Jésus. Où est-ce que c'est écrit? Mais c'est écrit dans Matthieu 7, le verset 21 à 23. Jésus lui-même le dit. Puis c'était du monde sincère en plus, puis du monde qui pensait être connecté avec le vrai Jésus de la Bible. Puis c'était pas le vrai Jésus de la Bible. Alors regardez bien qu'est-ce que Jésus dit. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, on le voit par la pratique de leur vie si c'est conforme dans ce verset-là. Plusieurs me diront ces jours-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Là, ce monde-là parlait dans le nom du Seigneur, il recevait des révélations, il prophétisait. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Fait que c'était des gens même qui invoquaient le nom de Jésus, puis qui chassaient des mauvais esprits dans les autres personnes. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Ouch! « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est quoi ça de l'iniquité? C'est des péchés. C'est de marcher dans l'injustice. C'est de marcher contraire à la parole de Dieu. Quand les gens marchent d'une manière contraire à la volonté de Dieu, ils pêchent, puis c'est bien évident qu'ils sont dans le péché. Ça se voit à l'œil. Puis on fera pas d'analyse trop sur tout ce qui nous entoure. C'est pas le but. Commençons par nous analyser personnellement. Est-ce que nous marchons dans la vérité? Est-ce que nous rejetons le péché pour poursuivre la justice? Sinon, on va se faire mettre au rang de ces personnages-là. Il dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il faut pas croire que quelqu'un est de Dieu seulement parce que nous voyons des miracles. C'est ça qu'il faut en venir comme conclusion. C'est ce que Jésus a voulu qu'on comprenne. Ces gens-là chassaient des démons, ils prophétisaient, ils manifestaient des miracles, puis ils parlaient dans le nom de Jésus, puis ils n'étaient pas des envoyés. Ni n'était pas en contact avec Dieu. C'était des faux prophètes. C'était toutes des personnes sincères. Seigneur, on a fait ça dans ton nom. Mais s'il aurait analysé la parole, puis ce que je veux en venir, surtout pour la pensée qui se véhicule présentement, la pensée de la grâce, seulement que la grâce, puis il parle de la grâce et le pardon, puis on est sa grâce et le pardon, puis qu'on n'est pas obligé de pratiquer quoi que ce soit, on est sa grâce.
On n'a plus besoin de demander pardon.
Puis on n'a plus besoin de demander pardon, on est sa grâce. Fait que là, ils sont tellement là-dessus que c'est la grâce, puis il ne faut pas faire d'efforts.
Fait que je peux rester dans
Je peux rester comme ça, puis Dieu me changera si ça y tente de me changer, j'ai pas à faire d'efforts. Mais ces gens-là, ils se comptent des mensonges, puis ils croient une fausse évangile, parce que la véritable évangile de Dieu, c'est un chemin de renoncement à soi-même, confession des péchés, puis recherche à mettre en pratique de tous nos efforts, puis Dieu va faire le reste, parce qu'on est quand on s'enligne dans ce chemin-là, on veut changer de vie. Fait que quand tu pêches, tu peux pas te sentir à l'aise dans tes péchés, tu vas demander pardon, puis tu vas vouloir t'en sortir, parce que tu sais que premièrement, Dieu aime pas ça. Puis Dieu, deuxièmement, ça t'est en train de t'auto-détruire parce que t'attristes le Saint-Esprit, tu perds ta communion avec Dieu, tu vas donner accès au diable, le diable va agir dans ta vie, tu vas détruire des choses autour de toi.
Oui, puis tu vas enseigner les autres.
Puis tu vas enseigner des faussetés en plus. Fait que au bout de la ligne, quelqu'un qui pêche volontairement, il devient un instrument du diable. Faut faire attention. Faut rester dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut marcher dans la vérité. Les ouvriers de Satan, puis ça c'est d'autres versets qui continuent à parler dans la même pensée, ils s'infiltrent dans le christianisme. Là, je n'apprends rien parce que je passe mon temps à me répéter, mais je ramène toujours des versets pour que ça nous soit, qu'on les apprenne par cœur. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Paul il a déclaré que certaines personnes qui avaient prêché un autre Jésus, puis un autre évangile, puis avaient amené un autre esprit dans les Corinthiens, il lui a dit, ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Fait que si c'était là, dans le temps de Jésus, tu sais, après le temps de Jésus, le Corinthien, c'est peut-être 15-20 ans plus tard après Jésus, c'est approche, là. S'il y a bien la parole, t'as bien plus d'aplomb dans ce temps-là qu'elle l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, souvent, il y a plein d'affaires mêlées. S'il y avait des ouvriers trompeurs, des faux apôtres déguisés en apôtres de Christ dans ce temps-là, puis ça nous dit, c'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il est pas étrange que ses ministres à Satan aussi se déguisent en ministres de justice, mais leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez-vous, les œuvres vont parler. Fait que si la personne, c'est un ouvrier d'iniquité, puis il amène d'autres évangiles, puis il est mené par d'autres esprits, puis il prêche un autre Jésus, sa fin va être selon ses œuvres. Il ne rentre pas. C'est un faux prophète, faux apôtre. Puis il faut prendre garde qu'aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur, on peut en trouver des faux enseignants. C'est pour ça qu'il faut même pas que vous fiez à ce que je vous enseigne. Allez fouiller dans la Bible si c'est vrai. Puis Agnès Cole l'a fait cette semaine, elle a un témoignage là-dessus. Je ne lui demande pas de le raconter là, mais elle va plus le raconter tout de suite après la réunion. t'as un questionnement, t'as une pensée qui est pas claire, allez fouiller dans la Bible, savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Prenez pas comme du cash tout ce qui est dit. C'est à Jésus et à sa parole qu'il faut être attaché. Le jour que celui qui vous enseigne sera plus là, vous allez être avec un autre. Puis là, l'autre va vous dire des affaires. Puis il met que l'autre, c'est plus là, ça va être un autre. Puis après ça, mais si vous vous faites entraîner dans le mensonge, c'est pas parce que vous le saviez pas. Donc, c'est notre responsabilité individuellement de rechercher à connaître la vérité. Puis si on a un doute sur une affaire, mais on la rejette. Faut pas prendre tout comme du cash.
Puis Yeshua, il a dit, mes brebis entendent.
Oui. Mais il y a d'autres voix aussi qui nous parlent. C'est pour ça qu'il faut discerner, puis pour discerner, il faut que tu connaisses sa parole, parce que l'Esprit Saint ne t'amènera pas en dehors de ce qui est déjà révélé. Fait que si tu restes dans ce qui est déjà révélé, tu peux pas te tromper. C'est souvent quand on cherche à en mettre trop, là. On en rajoute, puis si on retrouve pas ces choses-là dans la Bible...
On en rajoute ou on enlève.
C'est ça. Ça oui, on en rajoute ou on enlève, c'est là qu'on commence à...
tous les fléaux du monde.
Oui, exactement. Ce qui provient de la fausseté, ça provient du diable. Ce qui est faux, c'est le diable. Il est menteur depuis le commencement. Puis tout ce qui est du mensonge, qui est le père du mensonge, c'est le diable. Même si moi, Daniel Poulain, je vous raconte une menterie, mais c'est le diable qui me l'a donné.
Cette pensée-là.
Oui. C'est de même, ça marche. Le mensonge n'a un père de ça, celui qui donne les pensées dans les pensées des gens, puis c'est un mauvais esprit qui est là en arrière de nous. Il nous dit ça, souvent on peut s'en... Je te dis pas que je vais le faire, je fais pas ça. Mais pour se défendre, on se trouve une excuse, on invente une menterie. C'est le diable qui vient de nous shooter cette menterie-là, c'est pas le Saint-Esprit. Un chrétien peut être animé par le mensonge, exemple, Saphira et Ananias. Qu'est-ce qui leur est arrivé quand ils ont menti? Ils sont morts à cause de leur menterie. C'est pas à cause que Dieu nous a pas frappé de mort lors de notre mensonge qui a approuvé notre menterie. On pourrait tomber raide mort comme Ananias et Saphira. C'est que Dieu, s'il nous a pas jugés, c'est parce qu'il veut qu'on se repente puis il nous laisse le temps de se repentir. Parce qu'il aime pas le mensonge, puis il n'y a rien de commun entre la vérité et le mensonge. Il n'y a rien de commun. C'est pas le même. L'Esprit Saint, c'est la vérité. Dieu, c'est la vérité. Jésus, c'est la vérité. Puis le mensonge, c'est le diable. Fait que ce qui provient de la fausseté provient du diable. Fait que les religions, ça vient du diable. Bien qu'on veut que les personnes comprennent la vérité, mais pour les amener à la vérité, il faut leur dire la vérité. Puis là, on espère qu'ils réalisent. Puis on va leur dire avec amour. On crachera pas sur un faux prophète. On va leur dire avec amour pour qu'ils réalisent leur position. Puis qu'ils tombent à la... On va espérer que Dieu les amène à la repentance. Puis là, ils vont pouvoir se dégager des pièges que le diable les a capturés.
Amen.
Amen. Il dit, c'est pas il dit, c'est moi qui dis, ce qui provient de la fausseté provient du diable, puis ça a pour but de nous ramollir dans la foi et de nous égarer. Parce qu'un chrétien est appelé à se renforcer dans la vérité, dans la foi et dans la vérité. Mais si on accepte des mensonges, ça a pour but de ramollir. De nous mêler. Puis un petit peu de boucan là, dans une pièce, pas long, qu'on est tout asphyxié. Si on laisse rentrer à boucan, là, on va plugger un exhaust de char dans la maison, là. Puis si on laisse rentrer à boucan, là, aujourd'hui, au début, on va peut-être continuer à rire. On peut-être qu'en rentrant, on va tous s'endormir, puis on va tous mourir asphyxié. On peut pas laisser rentrer de l'eau empoisonnée dans un verre d'eau, pensant que l'eau empoisonnée affectera pas le verre plein d'eau pure. Tu peux prendre un verre d'eau pure, puis mettre un verre d'eau empoisonnée, commencer à le vider dedans. Ton eau pure va devenir empoisonnée. Tu vas devenir contaminé. Bon, mais je vais en parler un petit peu plus un peu plus tard. 2 Pierre 3:17, ça nous dit, « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Ça veut dire que si tu laisses tu te tiens avec des gens du monde, puis que tu écoutes leur folie, puis leur fausseté, puis leur mensonge, ça pénètre ton esprit, puis tu deviens mêlé. Tu sais plus c'est quoi qui est vrai, puis tu risques de te faire entraîner par leur égarement, puis tu vas déchoir de ta fermeté. Autant que t'étais ferme avant, mais à cause de te laisser rentrer un peu de menterie, un peu de fausseté, tu ramollis, puis à un moment donné, tu deviens moins ferme. Tu as de la misère à dire non. Puis tu te fais entraîner, tout simplement, parce que le poison nous envahit. Le Seigneur nous demande de grandir dans la grâce et dans la connaissance. Ce qui nous est nécessaire pour avancer, si on voit ça, juste l'autre verset que je viens de vous lire, qui nous dit de faire attention de ne pas tomber dans l'égarement des impies puis d'échoir de notre fermeté, il nous dit, mais croissez dans la grâce puis dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on veut devenir fort, il faut grandir dans la foi qui nous donne la grâce, puis il faut grandir dans la connaissance qu'on soit capable. Là, c'est non. T'es menterie, j'en veux pas. On n'acceptera pas les tromperies des hommes. Puis il dit, tout ça, ça va amener la gloire à Dieu. Dernier verset. La Bible nous demande d'être vigilants et de combattre pour maintenir la vérité. On voit ça dans Jude 1.3 qui nous dit, « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Voyez-vous, frères et sœurs, on est appelés à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Où est-ce qu'on retrouve ces enseignements-là qui vont nourrir notre foi et qui vont nous garder dans la foi? C'est dans la parole de Dieu. Mais on est appelés à se battre, à combattre pour la défendre. Comment est-ce qu'un chrétien peut défendre la vérité?
C'est en se gardant dedans.
En se gardant dedans. Puis quand tu entends du mensonge, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comme Jésus, puis tu vas refuter le mensonge. Tu vas lui dire, je regrette, c'est pas ça qui est écrit dans la Bible. Puis tu vas rejeter le mensonge. Puis c'est de même que tu vas te fortifier dans le Seigneur. Puis c'est de même que le mensonge va prendre une débarque. Parce que la personne que tu vas avertir, elle va peut-être réaliser, puis elle va abandonner son mensonge, puis elle va peut-être dire, ben oui, c'est donc bien vrai, puis elle va peut-être changer de vie à cause de cela. Puis il est important qu'on se tienne droit, puis qu'on se ramollisse pas pour fraterniser avec les faux, plutôt rester droit, défendre la vérité, puis ramener la vérité pour que les faux soient désarmés de leur mensonge, puis qu'on peut peut-être en convertir une coupe. Amen. On va prier. Père Seigneur, merci pour ta parole qui nous amène à focusser sur toi et sur ton enseignement, à garder et à défendre la vérité. Puis on veut demeurer dans cette vérité, on veut rester ferme, Seigneur, on veut même marcher conformément à tout ce que tu nous as dit. Donne-nous, Seigneur, la révélation, la connaissance, et qu'on puisse refuter le mensonge, qu'on puisse briller comme des flambeaux et éclairer les gens par la vérité. Je remercie de l'œuvre que tu vas faire pour séparer de notre cœur tout attachement au mensonge puis nous donner de regagner en fermeté. Seigneur, merci pour ta parole qui nous fait du bien, pour on te rend la gloire dans toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.